BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et le dérapage des comptes publics qui se confirme selon nos informations. Bercy projette même désormais un déficit supérieur à 6% pour l'an prochain, 6,2% précisément. La prévision pour cette année est elle aussi en passe d'être revue à la hausse à 5,2% contre 5% de déficit initialement prévu. En attendant, des indicateurs de l'INSEE publiés ces dernières heures sont plus positifs. D'abord celui du déficit commercial, cette fois-ci, qui se réduit. Il revient à 5,6 milliards d'euros en avril, soit 800 millions d'euros de moins qu'en mars. L'INSEE annonce également une hausse très légère de la production industrielle pour ce même mois d'avril. Enfin, un mot de l'actualité sociale. Et on apprend ce midi la réélection de Sophie Binet à la tête de la CGT pour un deuxième mandat. En fin de mois, ce sera au tour de Marie-Lise Léon de tenter sa réélection à la CFDT. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, les meilleurs professionnels de ce secteur laissent leur place aux meilleurs journalistes de l'immobilier et du logement. Et en l'occurrence, à mes côtés aujourd'hui, Virginie Grolot pour Challenge et Pierre Chevillard, le journaliste indépendant dont on dépend tellement pour être bien informé. Et comme tous les vendredis, ça démarrera par le fameux topoto de la semaine. Il sera d'autant plus important parce que, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, la Banque Centrale Européenne, jeudi, va sans doute relever ses taux. Et donc derrière, il y aura des conséquences sur nos crédits immobiliers. Est-ce qu'il faut avoir très très peur? Est-ce qu'il faut se précipiter? On essaiera de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Également au programme de ces experts de l'IMO, un point marché grâce aux chiffres des notaires du Grand Paris, aux prévisions du groupe bancaire BPCE et aux dernières données exclusives que Pierre nous a dégotées auprès du pôle habitat de la Fédé du bâtiment. On va parler des maisons. Mais oui, Pierre, avec Pierre, on parle toujours maisons. D'ailleurs, en fin d'émission, on parlera aussi de l'innovation dans ces maisons. On parlera notamment du bois. On adore le bois dans l'émission. On parlera aussi logement étudiant. Bah oui, la chasse à la location pour la rentrée a démarré. D'ailleurs, on en profitera pour lancer une petite alerte à ces candidats à la location et à nos amis propriétaires bailleurs sur les fameux beaux codes civils qui pullulent sur les sites d'annonces immobilières. Allez, on y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Pierre Chevillard, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour
oui,
j'aime Virginie.
Bien, et Virginie Rollot, chef de rubrique immobilier à Challenge. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Non, je voulais bien faire c'est bon, on s'est tous dit bonjour. Bah, du coup, j'appelle Alban pour faire dégainer ce fameux jingle du topoto.
Allez.
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Jeudi sera un grand jour. Oui, parce que la Banque Centrale Européenne va nous dire vous la voyez la petite menace inflationniste? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remonter les taux. Bon, alors, ces taux directeurs-là, nous, on a déjà connu des légères hausses. Là, on a vu la dette de l'État français à 10 ans qui remontait progressivement avec la guerre au Moyen-Orient. Mais là, quand même, quand la Banque Centrale Européenne passe à l'action, c'est plus la même musique. Est-ce que vous avez peur que les taux remontent?
Alors, si on voit ce qui se passe aujourd'hui, les taux sont stables, alors que, notamment à cause de la hausse de l'OAT, ils devraient augmenter, ils n'augmentent pas. Parce que les banques veulent
En juin, c'est un peu plus calme, on est d'accord, mais enfin, quand même.
On est resté à peu près à 3,45, 3,50 sur 20 ans, brut. En fait, ce qui se passe, c'est que les banques ont des liquidités, elles veulent prêter, elles cherchent des emprunteurs, et apparemment, il y a un petit coup de froid en avril-mai et que la demande est un petit peu mollassonne et que du coup, comme elles ont envie de prêter, eh bien elles gardent des conditions de crédit attractives. On voit par exemple sur la production sur un an, après les chiffres d'Observatoire Crédit Logement, pardon, on est à plus 17% en nombre de prêts, mais sur les trois derniers mois, on est à moins 1%.
Ouais, ouais.
Et un chiffre négatif, ce qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. Et donc, les banques mettre les bouchées doubles.
En fait, elles ont des objectifs qui sont quand même relativement ambitieux en termes de production de crédit. Et là, elles se disent, c'est peut-être le moment de tout donner, voilà. Parce qu'après, ça sera plus compliqué.
Et donc, il y a très bonnes conditions, on va en reparler, concernant la BCE. Il y a des banques, par exemple.
La SocGen, quand même. La Société Générale nous fait un truc.
C'est eux qui font 3,10, je crois. Il y a aussi LCL qui fait une vente flash à 1,99 jusqu'à fin juin. Vous avez toujours des prêts à taux bonifiés. On en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, dans le neuf, un prêt à taux zéro, un prêt à taux bonifié, plus un bon dossier, vous allez avoir une décote, ben, d'un taux moyen à, on va dire, à 3,50, 3,60 sur 20 ans, 25 ans. Vous allez descendre en dessous de 3%, voire en dessous de 2,50, et même dans les cas les plus favorables, on peut encore aller plus bas.
Oui, si vous arrivez en plus à accumuler avec le prêt à taux zéro de l'État, votre petit prêt action logement à 1%, bon an, mal an, je crois que c'est chez vous financé, la moyenne du taux lissé, là, des crédits qui sont réellement négociés, elle est sous les 2,5%.
Et il faut souligner quelque chose d'important, c'est que les banques comme les courtiers ont une obligation d'information sur toutes les aides, sur toutes les offres, de façon à ce que les emprunteurs ne puissent pas passer à côté. C'est quelque chose de légal. C'est, voilà. Donc, quand vous allez voir votre banquier, quand vous allez voir votre courtier qui va décortiquer votre dossier, il va vous dire toutes les aides, tous les bons plans auxquels vous avez droit. Donc, il faut en profiter.
Oui, il faut en profiter, d'autant que il n'y a pas que la Banque Centrale Européenne dans la vie. Il y a la Banque de France et il y a notre taux d'usure.
Oui, mais c'est pas encore très très grave. On est sur effectivement une remontée très très progressive des taux, puisque si on prend l'Observatoire Crédit Logement que citait Pierre, 3,25% en mai contre 3,23, donc 0,02 points en un mois. Bon, ça va. Ce qu'il faut faire attention, effectivement, c'est quand même d'ajuster la durée du prêt, d'ajuster l'assurance emprunteur pour pouvoir faire en sorte que le TAEG, c'est-à-dire le taux
effectif compris global,
avec les frais, etc., l'assurance et tout, soit inférieur au taux d'usure.
C'est intéressant ce que vous dites, Virginie, parce que l'idée, c'est de dire parfois, on peut peut-être moins agir sur le taux nominal et encore que, on l'a dit, mais il y a aussi ce fameux taux de l'assurance de prêt.
Oui, il faut négocier les frais, d'abord, ça se négocie. Si c'est ça qui, dans le calcul, conduit à une situation de blocage, on peut discuter avec sa banque ou son courtier ou les deux. Et il faut évidemment regarder l'assurance emprunteur, voir si elle est bien calibrée par rapport à son profil de risque, l'âge, la typologie des maladies. On n'a pas besoin forcément d'une assurance perte d'emploi qui est très coûteuse, même si c'est très rare. Mais bon, parfois, les offres, elles peuvent être construites comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut effectivement faire le tour, comme vous le disiez, tous les deux, des prêts aidés, des enveloppes. Alors là, effectivement, les banques, on peut dire qu'elles prêtent, puisque c'est ces nouvelles offres à taux unique, quelle que soit la durée, l'âge, les revenus. Parfois, c'est pour les moins de 30 ans, ou 36 ans, pardon.
On les aime pas.
Mais c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle tendance des banques, en tout cas, de faire des efforts, au moins de présentation et de lisibilité, en disant c'est 3,10 ou 3,20 sur 25 ans, sur 20 ans, et ça bouge pas. Donc il y a effectivement, il faut prendre le temps de préparer son dossier, d'étudier les offres. Et il n'y a pas de raison, en tout cas, il faut éliminer une par une les raisons qui pourraient conduire à un blocage par rapport au taux d'usure.
Ouais.
Et on peut emprunter, on voit que les banques sont prêteuses.
Mais la question, c'est pour combien de temps
Pour combien de temps? Si la Banque Centrale Européenne augmente ses taux de 0,25 points le 11 juin prochain, il y aura une petite répercussion, mais c'est un quart de point. Et les banques sont encore dans une période où elles cherchent à acquérir des clients.
D'autant que le printemps n'était pas super sur le front de l'immobilier, Jean.
Sur le front de l'immobilier, non, mais entre les intempéries, les vacances scolaires, les ponts de mai, le vote du budget, si je le fais un peu dans le désordre, c'est sûr que...
Bientôt, ce sera bien l'ordre. On votera le budget l'été.
En fait, les ménages décident en fonction de leur situation, essayent de pas trop regarder ce qui se passe autour, et c'est sans doute le conseil qu'on peut leur donner. C'est oui, il y a une situation donnée, faites le bon choix, et après,
mais pas oublier quand même un tiens vaut mieux que deux tu l'auras vu le contexte, c'est quand même
de toute façon clairement si on emprunte à la fin de l'année 2026, on a de fortes chances de payer son taux
plus
d'intérêt
plus cher qu'aujourd'hui.
Le BPCE dont on a parlé en présentation,
on va en parler.
BPCE, ils nous disent que on a des taux en moyenne qui sont à 3,22 en mars 2026 et on sera à 3,43 au quatrième trimestre.
Au T4.
Le crédit logement dit 3,50.
Je les trouve très optimistes quand même. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est le taux lissé dont on vient de parler en se disant est-ce que c'est une fois que j'ai aggloméré tous mes petits prêts
c'est un scénario avec une OAT à 3,77, hein, on était à 3,75 hier, donc l'OAT n'aurait pas flambé, et un Euribor pour quand même tempérer par rapport au refinancement des banques à 2,26, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une projection assez raisonnable, effectivement, peut-être que ce sera plus, personne ne peut le dire.
Peut-être mais, que ce sera moins, parce que pardonne-moi Virginie,
c'est mais pas choix utile ce qu'on est en train de
la boule de cristal, c'est très difficile à prévoir. Et on a,
Les banques s'ajustent aussi en fonction des volumes de prêts accordés.
Mais là, c'est pour ça que je veux pas sortir quelque part, je veux faire le lien entre les prévisions de BBCE et notre taux poteau de la semaine. C'est que, en fait, le risque est moins sur l'affichage des grilles bancaires que sur la disparition probable de ces petites lignes bonifiées ou de ces grosses lignes bonifiées en fonction des banques. Ma question, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, on a beau avoir 3,5 sur 20 ans sur une grille bancaire, à la fin, on paye que 2,5. Est-ce que, en fin d'année, ça sera vraiment 3,5 quoi? C'est aussi ça le sujet. C'est pareil, un point d'écart.
Boule de cristal. En fait, encore une fois, c'est pas tant tout est. Enfin, c'est important évidemment ces perspectives de taux, mais c'est surtout est-ce qu'on est bien dans son projet, est-ce qu'on a des revenus stables, est-ce qu'on est en CDI, est-ce qu'on a le bon apport personnel, est-ce qu'on a trouvé surtout le bien qui convient, qui est à la bonne distance des transports en commun ou pas, qui permet ou pas d'avoir une deuxième voiture si c'est nécessaire, parce que il n'y a pas que les centres urbains, etc., etc. Je pense pas que les Français en plus achètent sur des coups de tête. Hein, c'est plus du tout la période à ça. Donc après que les taux soient à 3,20 ou à 3,40. Ça change pas grand chose. Il peut y avoir l'argument de l'allongement de la durée des prêts qui peut permettre d'assouplir les choses, en tout cas de faire passer les mensualités. On voit qu'on a dépassé pour la première fois les 21 ans en moyenne.
Voilà. On arrive au bout du bout là-dessus.
On
a 80% des crédits immobiliers qui sont accordés sur 20 ans et plus. Ouais. On était à 65% avant le Covid. Et que l'allongement de la durée des crédits, c'est une façon de se resolvabiliser, mais là, on arrive un petit peu au bout.
Après... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que dit BPCE, c'est qu'aujourd'hui, alors je reprends ce chiffre de 80%, mais c'est pas la même chose. Ils disent que 80% des achats immobiliers se font à crédit, en temps normal, et que, y a des séquences, typiquement la séquence inflationniste guerre en Ukraine, on est descendu, je crois, à 60-65%. Parce qu'effectivement, l'accès au crédit était complètement coupé. Et donc ça, c'est quand même un risque pointé par BPCE dans ses prévisions.
Oui, bien sûr. Et puis, compte tenu de l'évolution des taux, ça leur fait aussi prévoir un ralentissement sur le marché de l'ancien.
Combien ?
Alors, on était à 950 000 en 2025. On sera en dessous de la barre des 900 000 en 2026. 890 000, donc moins 6%. Bon... Ça reste, c'est pas un effondrement, mais on est loin des millions qu'on avait vus juste à la sortie du Covid, qui étaient quand même des scores un peu exceptionnels, notamment parce qu'on avait des taux.
On avait
des taux à 1%. Dans le meilleur des cas, sur 20 ans, on pouvait emprunter en taux brut à 0,60. Ce qui était incroyable aujourd'hui.
Oui, mais ce qui n'était pas normal aussi.
Oui, bien sûr.
Ce qui a fait qu'on a payé des prix stratosphériques.
De toute façon, c'est toujours le principe de se communiquer. Quand vous avez les taux qui sont bas, les prix augmentent. Hein.
On a une bande-annonce sur BFM Business qui me reprend en disant ça, c'est horrible, j'ai la voix qui part dans les tours. Je m'excuse auprès des auditeurs, des spectateurs. Mais donc oui, donc ces taux-là, a priori, 3,43% en fin d'année dans le scénario de BPCE. Un volume de vente qui baisse légèrement, mais franchement qui reste raisonnable. Hein.
Les prix qui vont rester à peu près stable.
Pareil, prix, petite baisse quand même, non ?
Oui, enfin très anecdotique.
Après, c'est difficile parce que j'imagine
moins 0,1 si...
Mais après, sur les prix, c'est vrai que c'est compliqué à l'échelle nationale.
Non, puis c'est quand vous voyez, par exemple, sur le baromètre Sologer, il dit par exemple que les variations de prix peuvent être assez fortes, j'ai plus le chiffre en tête, mais si vous avez un logement qui n'est pas très bien placé, comme toujours, ou un mauvais DPE, vous allez avoir une décote. Ouais, parce que ça dépend aussi, il y a le côté macroéconomique, mais il y a aussi le côté microéconomique du projet, où un bien avec un mauvais DPE, clairement, il est décoté. Ça peut être moins 10, moins 15, moins 20.
Après, il y a deux signaux quand même qu'il faut regarder aussi. C'est l'inflation.
On est au lieu des 2% là, de nouveau.
Oui. Donc, il faut. Il y aura sûrement aussi. Je crois que c'est 3,2 zone euro, 2,4 au mois de mai. Donc, ça, c'est un signal qu'il faut regarder. Et puis surtout, le taux de chômage. Je rappelle qu'il est passé au-dessus des 8%.
Et oui.
Et donc, ça, c'est quand même plus problématique.
Ça
réduit le nombre d'emprunteurs potentiels.
Et puis, des gens, comme disait Ludovic Usieux d'Artemis Courtage, par exemple, avec l'inflation, tout ce phénomène, les banques n'ont pas resserré le critère de reste à vivre. Mais qu'en fait, ce sont les gens, les emprunteurs, qui calculent eux-mêmes leur reste à vivre et qui se disent que...
Non, ça ne me suffira pas.
Voilà, ça ne me suffira pas, donc je ne me lance pas.
Ouais, c'est ça, il y a une forme d'autocensure.
Oui, mais alors, autocensure, en fait, je pense que c'est un calcul. Si vous vous dites que j'ai très peu de reste à vivre, mais que je vais acheter un petit peu plus loin de mon lieu de travail, qu'il n'y a pas forcément les transports en commun, ou que le prix de l'essence augmente, ou ceci ou cela, je vais me mettre en danger. La question, c'est de savoir si ça vaut le coup de se mettre en danger, si on est vraiment en danger, et qu'en fait, les emprunteurs, les acquéreurs, sont des gens très rationnels. On se lance, ce que disait Virginie, on se lance pas sur un coup de tête. Un projet, c'est un projet de vie, c'est un projet économique. Donc, si vous sentez que vous allez être en danger, voilà. Mais après, il y a d'autres solutions. Si vous partez au départ, vous dites, j'ai emprunté sur 15 ans pour rembourser rapidement, mais que vous vous rendez compte que sur 20 ans ou sur 25 ans, ça marche et que votre mensualité sera plus basse.
Ce qui va vous laisser du reste à vivre. On peut la raccourcir aussi, d'ailleurs.
Il y a plein de curseurs sur lesquels on peut jouer.
Mais bien sûr. On parlera juste après des constructions de maisons, parce que c'est quand même le secteur qu'on attendait au tournant en 2025. Est-ce que ça continue sur cette reprise? On verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, quand même, Virginie, focus sur notre région capitale. L'Île-de-France, on a eu les notaires du Grand Paris qui ont publié leurs dernières statistiques. Bon, a priori, j'ai envie de dire un marché à moitié stable.
Oui, enfin, un marché un peu morose quand même, c'était le sentiment poussif, a déclaré Elodie Frémont, qui publiait ses résultats. Les volumes, moins 3% en Île-de-France, sur toute la région, moins 5% pour les appartements, mais plus 2% pour les maisons. Et surtout, des prix flat. Plus 5% en Île-de-France et à Paris d'ailleurs sur un an. Et encore, les variations, ça va de plus 0,2% dans le Val-d'Oise, donc archi-flat, et plus 1,7% dans les Hauts-de-Seine, un tout petit frémissement, mais on ne peut pas dire que ce soit l'euphorie. Sur les volumes de vente quand même, ce qu'il faut regarder...
Là, on est sur le premier trimestre, hein, c'est ça?
On est sur le premier trimestre, il est un peu en retrait, mais il faut se souvenir qu'en 2025, il y avait eu un peu plus de transactions du fait de l'anticipation de l'augmentation des droits de mutation. Donc, forcément, il y a un effet
moyennement comparable.
Voilà. Si on regarde par rapport à 2024, j'ai plus les chiffres, mais en tout cas, c'est au moins stable, voire un peu plus, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Non, mais ça dépend. En fait, c'est ça qui est. Il y a un marché qui est très contrasté en fonction des départements, en fonction des typologies de biens, que ce soit donc appartement, maison, et puis de la taille des logements, puisque ça aussi, ça compte. On a, par contre, des projections de petites hausses des prix, mais pas beaucoup. C'est de l'ordre de moins de 1%. Et surtout, il faut aussi tenir compte, et ça, c'était dans l'étude, je trouve, un point intéressant, le côté impact démographique, où on voit quand même que la part des plus jeunes, moins de 40 ans...
Très jeunes,
sont de moins en moins nombreux, tandis que les 71 ans et plus, pardon, sont en forte progression, tant du côté des acquéreurs que des vendeurs. Et donc, on voit bien qu'il y a là, et ça aussi, ça a un impact sur le crédit. Je dis ça parce que c'est important de voir par rapport au crédit. On est passé sur les vendeurs de 54 à 59 ans en moyenne en 4 ans. C'est très rapide. Mais ce qui veut dire que, évidemment, quand vous avez, 70 ans, il y a, à part un crédit travaux globalement, en plus si vous reprenez, vous quittez un logement familial pour un logement plus petit,
vous n'avez pas besoin de
vous n'avez pas forcément de besoin d'emprunt, et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres là on est à 78%, ce que disait BPC, des emprunteurs, des acquéreurs ont un emprunt, ces chiffres varient, mais parce qu'il y a aussi tout ce volant d'acquisition sans crédit qui est lié aux critères démographiques
et au
vieillissement de la population. Mais c'est important parce que il faut prendre en compte ces paramètres pour analyser le marché.
Ouais, non, c'est hyper intéressant. Juste d'un mot quand même, les prix à Paris, on est à quoi là? 9600 du mètre carré?
9600, oui.
Ouais, 9600 du mètre carré.
On reste toujours sous les 10 000. Hein. Alors après, pareil, grosse disparité entre les arrondissements.
On salue le 19e.
Mais même pas, il y a vraiment des micro-quartiers.
Hein, bien sûr, et même à l'intérieur des arrondissements. Oui,
le 19e, vous voyez les maisons, la Mousaïa, c'est comme un village avec des maisons autour des buts de Chaumont, près du métro Bozzari, ça a des immeubles magnifiques.
Exactement, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, effectivement, c'est pour ça que je disais sur les chiffres de BPCE, ce qui sont très intéressants, je ne le nie pas, mais c'est vrai que les chiffres globaux d'une tendance de prix à l'échelle nationale, ils ont peu de sens quand même.
Macro, micro.
Voilà. Quand même, d'un mot, la maison maison. Ben oui,
alors, la maison, donc, le pôle habitat de la FFB m'a donné ses derniers chiffres. Alors, pour cadrer, hein, 2024, l'année la plus horrible, un peu plus de 50 000 ventes, on n'avait jamais vu ça, la catastrophe absolue. En 2025, on remonte à 67 800 ventes, donc c'est quand même mieux. Et puis, en avril, sur un an, on est à 69 100 ventes.
On frôle les 70 000.
Ouais. On frôle les 70 000, donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en mai, il y a quand même un petit coup de frein, des taux un peu plus chers, un index BT01, c'est-à-dire le coût de prix des...
Mais oui, l'index BT01, évidemment.
Voilà, ça a remonté de 2%, donc ça pèse quand même sur le prix des maisons.
C'est les coûts des matériaux, concrètement.
Il y a une question de confiance. Bon, alors, a priori, on devrait tangenter les 70 000 ventes, ce qui est plutôt pas mal, mais on est quand même toujours à moins 40 par rapport à la moyenne de longue période, qui est à 100, un peu plus de 117 000. Ouais. Voilà. Mais c'est un secteur qui résiste, parce qu'on le dit souvent, quand on veut loger les familles, si vous achetez une maison sur une cote mal taillée, terrain 600-800 mètres carrés, maison de 110 mètres carrés, ça va vous coûter en moyenne entre 300 et 350 000 euros, à peu près. Si vous allez chez un promoteur, 95% de leur offre, ce sont des appartements, et ce sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers, un T4 de 87 mètres carrés, qui est un très bel objet technique, avec un balcon, ça va vous coûter 499 000 euros, et si vous prenez un T5 de 111 mètres carrés, c'est le T5 moyen, il est à 715 000 euros. C'est-à-dire que pour loger les familles, la construction de maisons individuelles, c'est une solution
quand même
très performante.
Plus économique.
D'autant que si vous rénovez dans l'ancien, pour avoir un niveau à peu près similaire de confort et de performance énergétique, je rappelle que chez les promoteurs comme chez les constructeurs, aujourd'hui on est en A sur le DPE, bah pour avoir ce niveau-là dans l'ancien en maison, c'est super compliqué.
Ça coûte très cher. Impossible.
Et de toute façon, ça coûte même plus cher que d'acheter du neuf.
À chaque fois, c'est son coup de cœur pour la maison. Je pense même pas qu'on aura le temps de parler des innovation dans la maison, justement, dont vous vouliez nous parler, mais on en reparlera la prochaine fois, parce que forcément, il y a un sujet qui est quand même urgent de traiter avec 5 minutes qui nous restent, c'est la chasse au logement étudiant. Bon, Virginie, ça y est, elle a commencé cette chasse. Est-ce que c'est mieux que l'an dernier ?
Non.
Non. Bon, c'était le message de la fin. Bonne chance, Jim.
On est toujours sur, de toute façon, même cause, même effet. On manque de logements étudiants, il n'y a pas de construction, donc ça devient difficile. Il y a les solutions type co-living, chambre sur l'habitant, etc. En tout cas, il faut avoir les moyens. Je regardais, donc, étude, je donne quelques chiffres. Étude Log Service, budget moyen en Île-de-France, pardon, j'ai pas la province, mais 900 euros, ça va de 962 euros par mois en. À Paris et 756 en grande couronne, enfin c'est quand même un vrai
en
budget.
En province, c'est 636 euros.
Voilà, c'est, mais ça fait quand même,
ça pique un peu quand même.
De toute façon un véritable budget à prévoir. Il y a 110 000. Je regardais d'autres chiffres chez les belles années Valoritis, les résidences gérées. 110 000 nouveaux bacheliers par an qui changent d'académie. Donc ça alimente le moteur parce qu'il y a aussi ceux qui seraient orientés, qui changent de parcours et qui changent d'académie, etc., etc. Les mouvements des alternants, les jeunes actifs. Bref, eux donnaient un chiffre que je trouvais assez sidérant. Ils ont 5800 logements à louer, grosso modo, 105 000 demandes, 18 demandes par logement. Wow. Et là, ils indiquent que pour ces 5800 logements, hein, en gros, ils ont déjà 27 000 demandes à fin mai. Hein, donc voilà. Et du coup, je regardais chez Maslow, qui faisait une étude sur l'investissement locatif. Donc là, en s'adressant aux investisseurs, évidemment, on peut trouver, enfin, ces logements sont souvent dans à moins de 100 000 euros, ce qui donne des rendements entre 6 et 10%, si je fais bref, première ville, rendement brut 6,7% à Lille, Le Mans 10%, sachant que pour un studio de 25 mètres carrés, voilà, vous avez des budgets qui vont varier si on est à Lille, 92 500 euros, Le Mans 46 900 euros. Du coup, il y a une autre PropTech qui posait la question, est-ce que plutôt que de dépenser 18 000 euros en moyenne sur 3 ans de loyer, est-ce qu'on ne peut pas acheter un logement pour
son enfant
étudiant. Ouais. Et effectivement, quand on voit les rendements que ça peut permettre ensuite, parce que bien sûr, vous pouvez loger votre enfant et puis après le louer avant ou après d'ailleurs, à un autre moment. Et la seule chose qu'on peut dire aux étudiants, en tout cas, c'est de préparer sérieusement leur dossier, évidemment, administrativement, hein, d'avoir toutes les pièces, de prévoir la caution des parents, des grands-parents, voire visale s'ils sont dans les critères et s'ils ne peuvent pas avoir d'autres solutions. Et surtout de faire très attention aux arnaques.
Ouais.
Parce que ça va être aussi le moment où il va y avoir plein de fausses annonces, il va y avoir ces recrudescences. Donc,
et pas oublier, verse... si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, les gars.
On ne verse pas de chèque de réservation, on ne paye pas pour aller visiter. Enfin, il y en a tout le temps, partout. C'est assez terrible, mais en tout cas, il faut être très, très vigilant.
Et on fait aussi attention au bail consigne, rapidement, il reste deux minutes. Ouais, le bail code civil.
Bail code civil, non, ce n'est pas fait pour les résidences principales, c'est fait pour les résidences secondaires et logements de fonction. Il y a eu la vidéo du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, à ce sujet, qui interpellait les professionnels en disant « ça suffit ». Voilà, c'est en même temps, alors rappel des sanctions, hein, ne serait-ce que les annonces, je rappelle que même la diffusion de ces annonces est sanctionnée, 3 000 euros d'amende par personne physique, 15 000 par personne morale, et pour la signature de ce bail civil, alors qu'il ne doit pas l'être. Par contre, je rappelle pour les étudiants, il y a du bail mobilité, sinon sanction, jusqu'à 300 000 euros, 2 ans de prison.
Ouais. Mais on peut refaire qualifier, c'est-à-dire que si vous avez... Oui. Voilà, c'est ça.
Il peut être qualifié en bail d'habitation, et à ce moment-là, le propriétaire est redressé, paye évidemment, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un gros risque, c'est-à-dire qu'on dit, on va encaisser un gros loyer, on va s'affranchir, je crois, de
l'encadrement des loyers, parce qu'en fait, le bail civil permet justement de ne pas respecter l'encadrement des loyers pour le propriétaire.
Et que si on se fait redresser, c'est une très, très mauvaise opérations.
Et l'étudiant qui signe ce type de bail n'a pas d'APL et peut être redevable du paiement de la taxe d'habitation, puisque c'est censé être un bail résidence secondaire.
Attention quand même. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque vous me permettez de le faire.
Même si on sait qu'ils n'ont pas forcément le choix.
Mais c'est ça, dans les zones tendues, c'est toujours compliqué. Hein. On accepte quoi qu'on nous propose. Hein. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, justement, le jour de la BCE, on n'a pas fait exprès, on organise un débat sur ce bail code civil avec l'adjoint au maire en charge du logement, Jacques Baudrier, donc dans les experts de l'IMO, avec le patron de Beanstock, qui est le site qu'a pointé Emmanuel Grégoire dans sa fameuse vidéo TikTok pour épingler le bail code civil. Alors, en l'occurrence, il nous expliquera, le patron de Beanstock, que le fonds de manière tout à fait légale. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on s'en rend compte et dans les villes tendues, comment on arrive à faire le tri.
Ne serait-ce que si c'est une résidence principale, a priori, c'est non.
C'est bon. Ouais. Voilà. on débattra de tout ça la semaine prochaine. Merci à Virginie de m'avoir permis de teaser l'émission de la semaine prochaine.
J'en prie.
Merci à Virginie. Virginie Grolot, chef de rubrique immobilier à Challenge, et le journaliste indépendant formidable qui est Pierre Chevillard, et régulièrement à l'antenne de BFM Business dans les experts de l'IMO qui reviennent lundi sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.